Minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Et bonjour.
Salut à toutes et à tous.
Bonjour.
Bienvenue.
Nous sommes le 9 avril 2021, il est 12h30 tout exactement et c'est l'heure des infos choisies.
Depuis quelques mois, on compte en millions les personnes à travers le monde qui se font vacciner. Le gouvernement a annoncé vouloir ouvrir la vaccination à qui veut d'ici le mois de juin. Comment décider de se faire vacciner ou non si l'on n'a pas toutes les informations nécessaires pour prendre cette décision ? Comme dans beaucoup de questions de santé, l'individuel croise le collectif et une décision personnelle de se faire vacciner ou pas a un impact sur la vie de notre entourage et à plus grande échelle sur l'épidémie concernée. Des questions très complexes à prendre sûrement avec beaucoup d'humilité. À l'échelle de la santé publique, le principe de précaution a basculé en janvier en Europe. De la prudence devant un nouveau vaccin vers l'urgence de vacciner au plus vite pour protéger les plus fragiles et à moyen terme arrêter l'épidémie. Contrairement à la tradition du monde médical et politique, on pense qu'on est tous et toutes assez intelligents pour comprendre le fonctionnement d'un vaccin et peser un rapport bénéfice-risque selon notre état de santé et nos pratiques. On pense qu'on est tous et toutes assez intelligents pour comprendre les dynamiques capitalistes qui orientent la recherche médicale et le marché des vaccins. Ce qu'on a vu depuis plus d'un an, c'est un État qui fabrique des ennemis intérieurs pour cacher son incapacité à gérer la crise sanitaire. Ce qu'on a vu l'an dernier, c'est que cet État a été plus lent que sa société à fournir les masques et la nourriture dont elle avait besoin. La société, c'est nous, et nous ne sommes ni bêtes ni irresponsables.
Vous l'avez compris, donc on va parler de vaccins. Tout d'abord, vous expliquez le fonctionnement de chacun des vaccins développés actuellement contre le Covid, puis parler de différents scandales qui ont amené notre méfiance à la vaccination. Et pour finir, un témoignage d'une camarade qui est allée spécialement pour Radio Galère et les infos choisies se faire vacciner à la Timone.
Une expérience extraordinaire.
Alors, aujourd'hui, il y a 4 types de vaccins contre le Covid-19. En France, le premier a été disponible le 21 décembre dernier. On va revenir sur chacun de ces types de vaccins, expliquer son fonctionnement et quel laboratoire le développe. D'abord, un vaccin, comment ça marche ? Les vaccins ont pour but de nous protéger des virus. Rappelez-vous l'image du virus du sida, le cercle avec des pics. En fait, ils ressemblent un peu tous à ça. C'est l'image d'une cellule de virus. Les petits picots qu'il y a autour, c'est ce qui sert au virus à s'accrocher aux cellules de notre corps. Une fois qu'une cellule de virus s'est accrochée dans une cellule à nous, elle peut se multiplier. Par contre, quand le virus s'accroche à une cellule, il est aussitôt analysé. Si notre corps détecte que c'est une menace, il va se défendre. Il fabrique des anticorps. Notre corps a déjà un système défensif de base, c'est les flics en blanc dans des capsules qui volent dans Il était une fois la vie. Souvenir. Mais comme on n'aime pas trop les flics et que ce dessin animé est quand même un peu craignos politiquement quand on le regarde, ça date de 86, hein. On va appeler ces anticorps des combattantes. Quand il y a une menace, elles se multiplient. Mais les combattantes, elles n'ont qu'une formation de base. C'est au fur et à mesure des menaces qui se présentent qu'elles apprennent à les combattre. Le problème, c'est que le temps de former les combattantes à la nouvelle menace du virus, qu'elles y aillent, se battent et gagnent, on est malade. Et même des fois, on perd. Quand on fait une sérologie sanguine du Covid, on compte le nombre d'anticorps, de combattantes, formés au Covid dans notre corps. Mais cette formation, elle prend plusieurs semaines. Alors il y a d'autres tests qu'on peut faire plus tôt.
Et donc on voulait revenir un peu sur les tests. Peut-être on peut commencer par le test antigénique.
Ouais, quand on fait un test antigénique, c'est comme dans les tests du Covid en pharmacie. On compte combien il y a d'antigènes de virus dans notre nez. Les antigènes, du coup, c'est des protéines de virus.
Et du coup, on dit qu'il n'est pas très fiable ce test.
C'est parce qu'il peut y avoir des faux négatifs. Si on n'est pas très malade, le test ne va pas détecter les antigènes qui seront trop peu nombreux dans notre nez. Par contre, s'il est positif, c'est forcément un vrai positif. Ça veut dire qu'on a du virus dans le nez, donc un peu partout.
Ok. Et c'est la différence avec le test PCR, du coup, c'est quoi ?
Alors, le PCR, du coup, il... Non, on va revenir sur l'antigène d'abord. La différence, l'antigène, c'est que c'est juste une protéine, c'est un bout du virus. Et le PCR, il cherche le génome entier du virus, c'est sa signature biologique. Du coup, c'est plus précis et plus fiable, notamment si on n'a pas de symptômes.
Et du coup, il faut attendre 7 jours après le dernier contact à risque, quoi, c'est ça ?
Ouais, c'est okay. Plus sûr, comme ça, il y a assez de virus qui s'est développé pour qu'on le trouve.
Ok, bah, okay pour les tests, et on revient au système immunitaire.
Tout à fait.
Allons-y, alors c'est parti.
Du coup, ensuite, quand on est guéri, notre corps, il fait un peu comme les mouvements révolutionnaires. Il revient jamais à la normale d'avant. Il garde en mémoire ce qui s'est passé. Il a des combattantes déjà formées au cas où le même virus revienne. Et c'est comme ça qu'on est immunisé. Le problème avec le Covid, c'est que l'immunité ne tient que 7 à 8 semaines. On ne sait pas pourquoi, après, le corps oublie sa formation. On peut donc attraper le Covid plusieurs fois. Les vaccins, eux, leur but, c'est de créer ces anticorps spécifiques, des modules de formation de combattantes, avant qu'on soit malade. Comme ça, le corps, il est prêt et il est sûr de gagner contre le virus assez vite pour qu'on ne soit pas malade. Et pour ça, il y a plusieurs techniques.
Nous sommes vaccinés et revaccinés. Alors on a tout ce qu'il faut sous la main pour nous en débarrasser en moins de 2, tu vas voir.
Des anticorps spécifiques.
Exactement. On va enrayer l'infection instantanément, d'accord ?
D'accord, je suis prête.
Alors on lâche les anticorps. Prêt ? Go !
Voilà, c'était l'explication par « Il était une fois la vie ». Avec un beau bruit d'anticorps. Du coup, sur les différentes techniques de vaccins. La première, c'est les vaccins inactivés. C'est la technique de base, celle sur laquelle le vaccin contre la rage a été inventé en 1885 par Louis Pasteur. Là. On fait subir un traitement au virus qui fait qu'il ne rend pas malade, mais qu'il déclenche quand même la création d'anticorps spécifiques. L'injection contient donc un virus inactif. Quand il arrive dans notre corps, le virus est trop faible pour se développer, mais il reste identifié comme une menace, qui vaut la peine de former les combattantes. Du coup, c'est la victoire assurée pour les combattantes qui se trouvent face à un ennemi un peu mou. Et c'est cette technique qui est utilisée notamment pour le vaccin contre la grippe saisonnière.
Et pour le Covid, c'est le vaccin qui s'appelle CoronaVac, qui est développé par Sinovac, un laboratoire chinois qui utilise cette technique. Il y a plus de 200 millions de doses qui ont déjà été distribuées et la Chine a annoncé pouvoir en produire 2 milliards par an de doses. Il réduirait donc de 50% les risques de contamination au Covid et de 80% les risques d'intervention médicale. Et l'OMS dit qu'il est sûr mais recommande d'autres études avant de conseiller aux personnes âgées et aux personnes ayant d'autres maladies. Ça, c'est pour les vaccins inactivés.
Ensuite, un autre type, c'est les vaccins sous-unitaires, qu'on appelle maintenant vaccins à protéines recombinantes. Du coup, on les appelle comme ça parce que c'est pas le virus entier que l'on vise, mais juste les petits picots à sa surface. Ces picots, c'est ça qu'on appelle la protéine S, dont on entend toujours parler, hein, ou Spike, pour son nom complet. Et elle est différente pour chaque virus. C'est elle qui permet au virus de se fixer dans les cellules de notre corps. Pour le vaccin, on reproduit donc cette protéine de manière artificielle en laboratoire. L'objectif, c'est d'envoyer l'information à nos corps que les protéines qui ressemblent à ça, c'est des ennemis. Le problème, c'est que toute seule, elle n'a pas l'air assez méchante pour justifier la formation des anticorps. Alors on ajoute un petit peu de caca dessus, pour que quand on l'injecte, le corps il se dise « Mais qu'est-ce que c'est que ce tas de merde ? Il faut vite nettoyer tout ça et vérifier ce que c'est. » Du coup, les vaccins sous-unitaires, ils sont composés de cette protéine S et d'adjuvants. Dans le cas du Covid, là, dans celui qui est développé, les adjuvants, le caca là, qu'on rajoute dessus, c'est à base d'arbres et de mauvais gras, là, comme du cholestérol et une cellule d'arbre, on ne sait pas trop, mais bon, ça marche. Et dans d'autres vaccins, souvent, les adjuvants qu'on utilise, ça va être des sels d'aluminium. La formation du coup, des anticorps spécifiques, elle consiste à apprendre à engluer les picots du virus pour qu'ils ne piquent plus. Le virus, il peut plus attaché aux cellules, du coup, et comme ça, il peut plus se développer et il meurt d'ennui.
Et donc, ces vaccins, c'est le vaccin Novavax qui correspond à cette technique. Et il serait efficace autour de 90% contre le Covid de base, mais beaucoup moins contre les variants, notamment le variant dit sud-africain. Il n'est pas encore disponible en Europe, des négociations sont en cours.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, 88.4 FM.
On continue avec les types de vaccins ?
Ouais, et on arrive au vaccin à ARN messager. Alors, il se base sur la même idée que si on apprend au corps à reconnaître cette protéine S, il arrivera à se défendre contre le virus. C'est la manière de faire passer le message qui est différente. Les protéines, c'est comme les cellules, elles sont codées en ADN et en ARN. L'ADN, c'est un peu le centre de stockage des données permanentes, et l'ARN, les données temporaires, les données qu'on envoie, celles qui sortent du centre de données permanentes. Pour le vaccin, on va utiliser l'ARN de la protéine S. Du coup, l'ARN, il a un code génétique, quoi, comme l'ADN, comme toutes les cellules. Sauf qu'au lieu de déposer cette protéine dans un petit tas d'adjuvants, là, et d'attendre que le corps vienne le chercher, on va le mettre dans une boule de pétanque qu'on va jeter à travers la vitre. L'ARN de la protéine, il est contenu dans des nanoparticules de gras qu'on injecte directement dans les cellules musculaires. Comme ça, le corps il comprend tout de suite que c'est nouveau, qu'il faut analyser cette information et répondre en conséquence. Cette technique, elle est complètement nouvelle et elle n'a jamais été utilisée dans un vaccin avant les vaccins contre le Covid.
Et donc ça, c'est les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech. Ils ont été les plus rapidement disponibles parce que la technique de production est plutôt simple. Et ils seraient efficaces à 80% contre la contamination après une dose et à 90% contre la contamination après deux doses. Et ils sont disponibles en France, mais en petite quantité.
Le dernier type de vaccin, du coup, c'est des vaccins à vecteurs viraux. On est toujours sur l'idée de faire passer au corps humain l'information que la protéine S du virus du Covid, c'est une menace. Sauf que là, on utilise un costume, un cheval de Troie, qui est un autre virus. On va modifier génétiquement un virus pour lui enlever tout ce qu'il a de méchant, mais garder sa capacité à entrer dans les cellules et à dire « Coucou, je suis là, viens te battre ». Et dedans, on va mettre cette protéine S du Covid. Comme ça, quand les combattantes elles arrivent, elles sont assurées de gagner contre le virus costume parce qu'il est, il est tout nul. Et au passage, elles apprennent à se battre contre le picot du Covid, sa protéine S là, qui est rajoutée dedans. Du coup, cette technique, elle peut être moins efficace si les combattantes sont déjà formées contre le virus costume ou si elles arrivent à le battre sans avoir besoin d'apprendre spécifiquement à engluer le petit picot. Et ça, cette technique, elle est nouvelle, mais elle a déjà été utilisée notamment contre Ebola en 2014.
Voilà, et cette technique, elle est utilisée pour les vaccins Johnson & Johnson, Sputnik V, qui vont peut-être arriver en Europe, ces deux vaccins, et le fameux AstraZeneca. Du coup, AstraZeneca, il serait efficace à 76% contre les contaminations et à 100% contre les complications. Il n'y a pas eu encore de cas de personnes qui ont été vaccinées par AstraZeneca et qui ont eu des complications nécessitant une hospitalisation. Et on a beaucoup entendu parler de ces effets secondaires. Alors du coup, on voulait revenir sur quelques données sur les effets secondaires d'AstraZeneca. Selon Le Monde, sur 1,4 million de vaccins AstraZeneca injectés en France au 18 mars, environ 5700 effets indésirables ont été analysés par les centres de pharmacovigilance. En grande majorité, des syndromes pseudo-grippaux, souvent de forte intensité, comme de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, etc. On recense 9 cas de thrombose sur 1,4 million de vaccins, dont 2 décès, donc uniquement chez des personnes de moins de 55 ans. Ce qui fait qu'en se faisant vacciner avec AstraZeneca, vous avez à peu près une chance et demie ou une malchance et demie sur 1 million de mourir, ou 6 chances sur 1 million de faire une thrombose, ou 0,4% d'avoir des syndromes grippaux. En comparaison, si vous avez le Covid, le taux de mortalité est aux alentours de 2,2%. Donc le risque existe, on en parle beaucoup, mais il est quand même statistiquement très très faible. Voilà pour les vaccins.
Ça, c'est extraordinaire, ça. Mademoiselle Hortense, venez, venez voir, vite, vite, venez voir.
Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert ?
Regardez.
Et on va s'écouter tout de suite une chanson, une nouvelle de Kenny Arcana, Violence masquée.
Le pays sera-t-il achevé par un petit pantin de la finance ? C'est épidémie, peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour plus laisser un tas de vaccins.
Dictature de l'incohérence, dictature de la violence masquée.
Aucune confiance en leur monde malsain. La folie monte comme vapeur d'absinthe.
Non, ils veulent nous imposer leur vaccin.
Oh, oui.
Aucune confiance en leur monde malsain.
Les mêmes qu'on dit crever chez vous, déconnez pas. Les mêmes qui ne s'excusent même pas du génocide dans les EHPAD. Les mêmes qui ont ordonné la guerre au peuple dans tous les sens. Quand la colère s'est propagée et devenue jaune fluorescente. Les mêmes, pas une légende qui parle d'échange. Les mêmes qui ont le budget pour gazer les gens, mais pas pour soigner. Les mêmes pour fake mentir, tromper les chiffres, creuser le clivage. Médecin collabo parle trop, arrosé par Big Pharma. Yeah. Liberticides veulent notre obéissance absolue, obsolète, guerre des esprits, car la psychose assomme.
Et Delta Télé,
mass média est trop nocif. Violence masquée, pandémie et génomique.
Aucune confiance en leur monde malsain. La folie monte comme vapeur d'absinthe.
Maintenant ils veulent nous imposer leur vaccin.
Oui. Oui.
Aucune confiance dans leur monde malsain.
Aucune confiance.
Violence institutionnelle. La terreur et le bâton.
Aucune confiance.
Disciples du monde à Orwell.
Tirer pour que l'on capitule, oui oui, on pourrait dire bavure, mais c'est devenu une habitude.
Oui, oui.
Milice assermentée t'éclate la tête sur le bitume.
Oui, oui.
Et bornes mutilées, tu tires de flashballs dans la figure.
Là,
marionnettes des labos, nous mettent dans le pétrin. Médecins collabos nous rappellent que l'ordre des médecins est l'enfant de Pétain. Traumat plein d'édain, hypocrite à crucifier Hippocrate pour une étude randomisée de petits connards. Chercheur n'est pas médecin. Aucune confiance en votre monde malsain. L'intérêt n'est pas le même, gardez vos vaccins. On sera niveau combat et niveau sujet aveugle. Aucune confiance en ceux qui parlent avec la peur. Yo.
Aucune confiance dans leur monde malsain.
Aucune confiance.
Violence institutionnelle.
Confiance.
La terreur et le bâton.
Aucune confiance.
Disciples du monde à Orwell.
Sécurité globale, plus la mort. Instaure ces miradors. Entre les caméras drones et les tyrans démagogues.
Et voilà, on va parler de méfiance, comme dans cette chanson de Kenny Arcana. Et parce que, en fait, bah, la confiance face au vaccin s'est érodée depuis Pasteur, pas besoin de le nier. Beaucoup de personnes ont peur d'effets secondaires de ces vaccins anti-Covid encore en phase expérimentale. Et cette méfiance est souvent prise de haut par les scientifiques, les médecins et les politiques. Et d'un autre côté, ces peurs légitimes sont utilisées aussi par les complotistes sur les réseaux sociaux pour balancer des messages mensongers, faire du buzz et créer la confusion dans nos esprits. Alors, comment garder la tête froide dans tout ça ? Et est-ce qu'on peut d'ailleurs ? On n'est pas sûr. Mais en tout cas, nos questions ne sont pas stupides. Et elles s'expliquent par de précédents scandales sanitaires autour des vaccins. Ce n'est pas une peur ancestrale historique, elle est fondée par des maladies graves suite à des injections. Donc, je vais prendre trois exemples. Celui de la fausse pandémie de la grippe H1N1 en 2009, celui de la vaccination massive de l'hépatite B et celui des sels d'aluminium comme adjuvant le fameux caca dont parlait Flo. Donc Romain Guérardi, il était chef de service au centre expert en pathologie musculaire de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Il avait publié un livre en 2016 qui s'appelle Toxic Story et qui raconte ses recherches sur les adjuvants vaccinaux. Lui, il appartient à aucune ligue antivaccinale. Il ne cherche pas à remettre en cause les bénéfices réels et considérables de la vaccination. Et il est, voilà. Mais il suggère, à ce moment-là, simplement l'existence possible d'une nouvelle voie de toxicité par les adjuvants alumiques. Il ne prétend pas non plus que toute la population serait empoisonnée par l'aluminium, puisque toute la population est vaccinée. Mais il soupçonne par contre qu'une petite fraction des individus puisse ne pas le tolérer, et présentant ainsi une réaction immunitaire et inflammatoire chronique qu'il a remarquée. C'est-à-dire qu'il a remarqué des pathologies musculaires avant de mettre en cause l'aluminium des vaccins. C'est ensuite par des recherches qu'ils se sont rendus compte que la présence dans les vaccins. Donc Romain Gherardi raconte dans son livre comment le vaccin, qui est le médicament totem de la médecine moderne, ne peut pas se discuter avec d'autres scientifiques. Donc les regards de ses confrères qui se détournent, l'isolement, les objections des agences sanitaires, la violence surréaliste de certains colloques scientifiques face à ces questionnements. Il raconte aussi le tarissement des financements, bizarre, et la difficulté à poursuivre ses travaux. Il critique également les autorités sanitaires qui ne veulent pas pousser les investigations pour lever les doutes, ne voulant explorer une recherche aux résultats incommodants. Quand lui, il commence avec des choses très étayées à appuyer, tout le monde lui ferme la porte au nez. Donc à partir de là, il met en cause l'influence exercée par les industriels et les labos pharmaceutiques dans nombre d'agences de sécurité sanitaire. Parce que ces agences de sécurité sanitaire envisagent l'évolution du risque comme une coproduction avec les industriels. Ce qui veut dire que ça a pour conséquence que le doute bénéficie plus fréquemment aux sociétés pharmaceutiques qu'à la santé publique. Donc il plaide pour une action urgente des pouvoirs publics en faveur de l'indépendance de la recherche et de l'expertise. Sans transparence du travail scientifique conduit sur les produits de santé en général et les vaccins en particulier, la confiance de l'opinion s'érodera toujours plus, puisqu'on peut voir la confusion avec les labos. Donc l'ouvrage montre aussi, en plus, les difficultés des communautés savantes à remettre en cause des idées qui prévalent de longue date, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de vaccins.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi,
les midi 30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Alors que les effets des vaccins sur la rougeole ou sur la polio ont été spectaculaires et ont amené une amélioration de la santé publique considérable, d'autres campagnes vaccinales sont à questionner et à remettre en question. En 1994, sous l'influence des laboratoires, la vaccination contre l'hépatite B a raté sa cible. C'est un virus à l'origine de cirrhose et de maladies du foie. En 1992, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande la vaccination universelle contre l'hépatite B en privilégiant les nourrissons et les adolescents. Pourtant, si le virus est très présent dans les pays dits en développement, il l'est beaucoup moins dans les pays dits riches, la prévalence du virus y étant inférieure à 2%. Et pourtant, les autorités françaises, avec Douste Blasi, qui était ministre de la Santé à l'époque, ont tenu des discours alarmistes et mensongers sur la gravité de l'hépatite B en France. Par exemple, on a attendu que l'hépatite B se transmettait par la salive, que ce virus faisait plus de morts en un jour que le sida en une année. Tout cela était faux. Et une grande campagne de communication a été financée par les laboratoires. On a fait appel à des animateurs de Fun Radio qui ont fait le tour de France en camion pour sensibiliser les jeunes. Bref, moi j'étais persuadée de tout ça aussi. Bernard Bégaud, dirigeant alors la pharmacovigilance au sein de l'Agence du médicament, a fait le constat qu'il y a eu 33 millions de personnes qui ont été vaccinées, dont 10 millions d'enfants et 23 millions d'adultes. Sauf que la campagne vaccinale a raté sa cible, selon lui. Aucun pays au monde n'a vacciné autant d'adultes contre l'hépatite B. Et ça a eu pour effet 640 signalements de sclérose en plaques. La France est le seul pays à avoir eu autant de signaux de pharmacovigilance inquiétants, de même qu'une controverse sur sa vaccination. Les autres pays se sont, eux, contentés de vacciner les enfants avec beaucoup plus d'efficacité, alors que la France visait un taux de 80% d'enfants et d'adolescents vaccinés, seuls 30% l'ont été à l'issue de la campagne. Donc pour dire qu'il ne faut pas vacciner, c'est très risqué de se vacciner sur l'hépatite B à l'âge adulte. Bon, c'est à cette époque que les médecins, les professionnels de santé ont commencé à douter des vaccins, puisqu'il y a eu de la part de l'État une campagne mensongère, Et la controverse à l'époque a été si vive que Bernard Kouchner, qui a succédé en 1997 à Douste Blasi, décide d'interrompre la vaccination au milieu scolaire. Et cette décision, elle a aussi ébranlé une nouvelle fois l'opinion publique et a ancré le doute dans l'esprit des Français.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, 88.4 FM.
La première grande étude nationale sur la confiance dans les vaccins en France est lancée seulement en 2000. Jusqu'en 2005, selon cette étude, 90% de la population française est encore très favorable au vaccin. Et le basculement se fait sentir avec la gestion de la crise de la grippe H1N1 en 2010, ce qui a été ensuite appelé cette fausse pandémie. Il y a eu une alerte pandémique mondiale qui a été lancée par l'OMS au printemps 2009, puisqu'il y a une grippe jugée alors sévère au Mexique et qui frappait nombre de personnes jeunes. Finalement, pendant l'hiver 2009-2010, cette grippe s'est relevée peu virulente, autant qu'une grippe habituelle. Mais donc une campagne de vaccination d'ampleur mondiale a été lancée et a presque partout échoué. On peut en faire ici une critique économique tout d'abord sur le nombre de vaccins achetés par la France, qui est tout de suite suivi par la critique sur les liens d'intérêt des labos et de plusieurs experts politiques et scientifiques. 2009, c'est aussi le moment de l'explosion des réseaux sociaux, dont se saisissent les milieux conspirationnistes pour lancer des campagnes anti-vaccins et créer la panique. Mais là, je n'ai pas envie, sans parler de l'effet désastreux que peuvent avoir ces idées conspirationnistes, il semblait nécessaire de faire la critique de la gestion de la santé publique et des choix politiques. La recherche médicale et les campagnes vaccinales sont influencées par les laboratoires pharmaceutiques et donc par l'intérêt mercantile, plus que par la santé publique. Même si les vaccins ne tuent pas, ils peuvent nous être administrés inutilement si les politiques et les scientifiques se concertent mal et prennent des mauvaises décisions. À nous de prendre le temps de détricoter ces affaires de gros sous reliés à la santé publique et de pouvoir aussi considérer notre méfiance comme un guide plutôt qu'un aveuglement.
Je suis allée me faire vacciner aujourd'hui, le 8 avril 2021, à la Timone. J'avais été très surprise en fait de voir qu'il y avait plein de centres vaccinatoires un peu particuliers qui étaient surrincés et qui prenaient plus de rendez-vous, et que par contre l'APHM à la Timone, ils avaient un rendez-vous une semaine après que j'ai eu mon ordo, donc ça allait assez vite. Et du coup tu prends le rendez-vous sur Doctolib. L'heure du rendez-vous, c'est genre 11h42, c'est précis, c'est millimétré. Ouais, tu te dis que c'est bien carré, quoi. Du coup, j'arrive ce matin un peu en avance au rendez-vous, avec tous mes petits papiers. Et là, une queue d'environ 50 personnes. Du coup, je demande si c'est la queue des gens qui ont rendez-vous. Donc oui, en fait, tout le monde a rendez-vous, tout le monde arrive en même temps. Et il y a deux queues, en fait. Tu fais la queue une première fois. Alors, les distances sociales sont pas du tout respectées. Tout est fermé. L'hôpital, il est surchauffé. C'était marrant parce que tous les vieux, ils étaient en train de râler qu'on était bien en France et que la distance physique était pas respectée. Ah, vraiment, c'est le pire cluster que j'ai jamais vu. Carnaval à côté, c'était guinguette. Hein. Tout le monde râle parce qu'on est tous serrés comme des sardines en train de faire la queue. C'est comme si tout le monde avait peur que sa dose de vaccin lui passe sous le nez. Bon, voilà. Donc moi, je faisais sérieusement baisser la moyenne d'âge. À aucun moment, j'ai enlevé mon masque. Parce que c'était vraiment, vraiment, on est tout serré et que entre personnes fragiles, a priori. C'est un peu n'importe quoi. Et là, en fait, au bout de cette première file que tu fais, il y a un médecin qui, je pense, n'avait pas bu d'eau et pas pissé depuis 12 heures. Et en fait, il prend ton nom et ta commune, là il retrouve ton rendez-vous, te donne un papier avec un numéro et tu dois remplir le papier. Et sur ce papier, en fait, c'est le questionnaire de les contre-indications au vaccin. Est-ce que tu as des allergies? Est-ce que tu as tel ou tel traitement? Est-ce que tu souffres de problèmes de cœur, de dialyse, etc., etc., etc. Du coup, en fait, tu remplis toi-même ton questionnaire. Après, tu refais une autre queue, la file d'à côté en fait. La file d'à côté, la première queue, et au bout de cette file, il y a une porte et un couloir. Et là, il y a une dame qui aurait un peu le look d'une ambulancière, qui passe la tête, mais à une cadence folle, quoi, par la porte, et qui dit un nombre, genre 2 personnes, 4 personnes. Et en fait, toi, ton papier, faut qu'il soit signé par le même docteur qui est en train d'accueillir les gens. En fait, c'est le médecin, donc il est censé valider ta vaccination, vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication. Et du coup, ben moi, quand les portes se sont ouvertes et que c'était mon tour, mon papier n'était pas signé. Du coup, il a pris le papier et il l'a signé. Ça veut dire qu'il l'a signé sans regarder. Donc déjà, je trouve ça un peu dangereux. Et aussi, ben, c'est indicateur de où on en est, quoi, dans l'hôpital public. Ça veut dire que, en fait, je suis arrivée en fin de matinée, il y avait 50 personnes devant, 50 personnes derrière, et en fait, le rythme ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'ils ouvrent les vaccinations un peu avant 8 heures, il me semble, et qu'ils s'arrêtent à 18 heures, et qu'en fait, ce médecin distribue des autorisations de vaccination. Je sais pas combien il en distribue dans la journée, mais c'est une condition de travail qui est complètement foutraque et une condition de prise en soin qui est assez hallucinante déjà. Bref, du coup, il me l'a signé, hein, sans même la regarder. Et voilà. Et du coup, derrière cette porte, eh ben, c'est l'abattage du vaccin. Ça veut dire qu'il y a des boxes et un couloir. Et en fait, on était tous serrés comme des sardines dans le couloir. Et la dame qui passe la tête par la porte en disant 4 personnes, 2 personnes, ben elle nous place tous et elle nous quiche au maximum. Il faut pas qu'on bouge parce que sinon, ça fait perdre du rendement. Donc ça veut dire qu'elle non plus, elle s'arrête jamais. Et qu'elle doit gérer des centaines de personnes, en fait, toute la journée. Et d'un coup d'œil, savoir si le vieux, il va tenir le choc ou s'il vaut mieux le faire asseoir. À un moment donné, il y a un livreur de flacons qui est passé et qui a dit « Oulala, ça m'a fait rire ». Personne de boîte verre d'eau, là, sinon c'est le cluster. Vraiment, c'était complètement fou. Puis, c'était vraiment des conditions qui étaient difficiles aussi pour eux, les plus de 70. Du coup, t'es 2 ou 3 par box. Comme tu dois dénuder ton épaule, c'est soit par couple, soit par sexe. Et du coup, par exemple, ils vont dire « Est-ce qu'il me reste 2 hommes en 190 ?» Et ça enchaîne, et ça enchaîne. Et à l'intérieur, c'est des infirmières, elles s'arrêtent jamais, elles sortent jamais. Je pense qu'en fait, ils prennent pas de pause, ils font des services continués et déroulements, et c'est l'abattage, quoi. C'est vraiment l'abattage total. Ça avait l'air d'être mal organisé, mais en fait, ça va très très vite. D'ailleurs, quand on est rentré, l'infirmière, elle a regardé un peu la queue, elle a vu que ça se calmait pas, et vraiment, il y avait de la panique dans ses yeux. Donc moi, on m'a piqué pour l'épaule droite parce que je suis gauchère et qu'en fait, ça ankylose. Elle prend les 2 papiers, elle demande qui est qui et elle note le numéro de série du vaccin. Après, ça enchaîne, hein, on n'était même pas rhabillés, qu'il faisait déjà rentrer 2 nouvelles femmes dans le box. Et là, tu repars, tu retraverses le couloir et tu repars en salle d'attente. Alors déjà, ça leur permet de te faire attendre 10 minutes, mais alors t'attends en tas dans la salle d'attente avec 2 vigiles pour vérifier que tu restes dans la zone, en fait, pour voir si tu fais pas de choc. Et là, bah, tu reçois un papier avec ton attestation de vaccination, le numéro de série du vaccin, le docteur par qui ta vaccination a été validée. Donc lui, il se met dans la merde. Hein. Enfin, sa hiérarchie le met dans la merde, ou je sais pas s'il a un droit de retrait et tout, mais s'il les enchaîne tous comme ça, c'est vraiment, il y a son nom partout en autorisation de vaccination. Et du coup, en fait, c'est la dame qui te place derrière la porte pour la vaccination qui revient te filer ton papier d'attestation. Ça veut dire qu'ils ont même pas embauché. Ça veut dire que pour, en fait, je sais pas, on va dire 100 personnes par heure sur une journée de 12 heures, bon, bah, ils ont embauché 4 infirmières, un docteur et 2 vigiles et 2 subalternes, quoi. C'est quand même hallucinant. Je sais pas dans quel état ils vont se retrouver, ceux qui sont recrutés là-dessus, quoi. Et voilà, et sur mon attestation, il y a marqué que j'ai été injectée dans le bras gauche. Parce que la plupart des gens sont droitiers, mais c'est faux, j'ai été injectée dans le bras droit. Donc ça aussi, c'est un petit signe de ils lisent rien, ils regardent rien, ils ont pas le temps. Et en fait, ils se mettent dans la merde, un truc de ouf. Des conditions de travail de fou furieux. Ces infirmières-là, enfin, vraiment, Genre, elles enchaînent les vaccins, quoi.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, 88.4 FM.
Et un an après l'annonce du premier confinement, le pass sanitaire est avancé comme la promesse d'un monde d'après. Un monde où tout réouvre, enfin. Mais un monde toujours plus autoritaire et plus répressif. Le gouvernement reste flou sur ce qui nous attend. À l'entrée des restaurants ou lieux culturels, à leur réouverture ou pour voyager à l'étranger entre passeport vaccinal ou preuve de test négative ou inscription numérique pour faciliter le traçage ou les trois. Le Parlement européen va examiner les conditions d'un passeport sanitaire européen en cours de sa session plénière du 7 au 10 juin et le rendre fonctionnel à ce moment-là, a priori. Mais ça va tellement vite, ça va tellement vite. Les dirigeants de nombreux pays profitent de cette pandémie pour restreindre les accès et augmenter l'élitisme, sur des lieux culturels notamment, mais accentuer aussi la ségrégation de population par la restriction de déplacement. En plus d'un passeport, il faudra un passeport vert pour voyager. Une autre manière aussi de rendre la vaccination obligatoire. Et aussi, qui produit tous ces vaccins? Est-ce que ça nous donne à voir le monde de demain? Les puissances? J'ai trouvé un graphique qui montre que les quatre plus grands producteurs de vaccins sont par ordre décroissant la Chine, les USA, l'Allemagne et l'Inde. Alors que les délocalisations de toutes sortes d'usines polluantes vont bon train en France, un choix subit de relocalisation a été fait, celui de la production des vaccins anti-Covid. Lucine, dès la Pharm, met en flacon les vaccins Pfizer-BioNTech depuis ce mercredi 7 avril à Saint-Rémy-sur-Avre. Moderna sera lui aussi mise en flacon en France. À terme, 4 usines devraient mettre en flacon 3 des vaccins acceptés par l'Union européenne dans les 2 semaines. Ces sites sont des sous-traitants. Il n'y a encore aucun laboratoire français pouvant produire les substances actives du vaccin. Mais Sanofi est sur le coup. D'ailleurs, toutes ces entreprises sont montées, bizarrement, en bourse. Beaucoup mieux cotées. Il y aurait tellement d'autres choses à dire sur les enjeux géopolitiques et économiques de ces productions de vaccins. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne journée.
À la semaine prochaine, 12h30, vendredi. Ciao, ciao.
Salut.